D'abord, c'est de remonter aux origines du sionisme, c'est-à-dire de raconter comment Israël était aussi un projet de transformation du corps juif. Hein. Et ça, c'est très important parce que finalement, c'est les racines du pinkwashing.
Madame, monsieur, bonsoir. Après 5 attentats à Paris en moins de 2 semaines...
Le gouvernement israélien a adopté l'accord conclu avec l'OLP.
Israël, on peut manifester pour les Palestiniens, on les laisse crever.
Qu'est-ce que c'est l'identité palestinienne? Comment on la conserve?
Georges Ibrahim Abdallah est d'abord un militant communiste libanais.
La grosse campagne des dernières décennies, c'est la guerre contre le terrorisme. On ne peut pas ne pas penser à la Palestine.
Le report also warns that bombs have contaminated the drinking water.
Palestine vivra, épisode 2. Pinkwashing et homonationalisme.
Je m'appelle Jean Stern, je suis journaliste. J'ai commencé par travailler au Guépier, que nous avons cofondé avec quelques amis venus des groupes de libération homosexuelle en 1979. J'ai travaillé à Libération, j'ai travaillé à La Tribune, j'ai travaillé pour Amnesty International, j'ai enseigné, etc. Donc j'ai travaillé dans différents endroits. Mais que disons, depuis ma retraite officielle il y a 4 ans, je travaille pour Orient 21. J'essaye dans ma vie professionnelle, personnel et journalistique, de goupiller différents éléments, différents regards autour de la question du Proche et du Moyen-Orient, qui m'a toujours particulièrement intéressé, autour des questions d'identité qui m'ont toujours aussi particulièrement intéressé, en particulier, bien entendu, de l'identité homosexuelle, puisque je me suis toujours battu pour la sortie du placard, pour l'affirmation et pour le combat contre les racismes et les homophobies, quelles qu'elles soient. Alors le pinkwashing, on pourrait presque traduire ça en français, mais ça serait audacieux, ça veut dire repeindre le plafond en rose. D'une certaine manière, voir des éléphants roses, etc., on sait depuis longtemps que ça correspond à transformer une réalité. Et donc, repeindre le plafond en rose, c'est le rendre plus souriant, plus joli, plus joyeux, et évidemment, le rose étant considéré comme la couleur des queers, à tort ou à raison d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat, passer au rose consiste à affirmer une identité homosexuelle. Deux, les entreprises et le capitalisme en général, et donc les pays, puisque les pays font partie des capitalistes, les villes qui font partie du capitalisme, ont compris qu'il fallait affirmer clairement des messages simples à destination du monde entier sur ce que j'étais. On le voit d'ailleurs très bien en ce moment en France avec les Jeux Olympiques, Paris, ville olympique. Donc on va réduire à l'extrême le message qu'on va transmettre pour faire de Paris effectivement une ville olympique, si j'ose dire, de gré ou de force. Eh ben, le pinkwashing a été inventé pour repeindre la réalité en rose, d'abord d'un certain nombre de villes, d'un certain nombre d'entreprises aussi, qui avaient besoin, pour des raisons X, Y, Z, de renforcer ce qui était déjà l'amorce, on va dire, d'une image gay-friendly. Alors, évidemment, vous allez prendre San Francisco. San Francisco n'a pas besoin d'une agence de publicité pour se faire connaître comme une ville gay-friendly. C'est son histoire, mais c'est l'histoire de ses combats également. Hein, il ne faut pas oublier que San Francisco, New York, aux États-Unis, ont été les deux points de départ des grandes révoltes homosexuelles à la fin des années 60.
San Francisco est le centre financier de l'Ouest américain. Une ville de cadres, d'administrateurs, de collets blancs. Il y a 10 ans, personne n'aurait remarqué la rue Castro. Quelques homosexuels établirent ici leur commerce. D'autres choisirent d'habiter ici. La rue Castro, c'est la rue principale de l'Amérique gay. Depuis quelques années, les homosexuels du 5e district sont la majorité. Une majorité qui n'est pas silencieuse. Une majorité très politisée, parce qu'elle sait que c'est peut-être à partir d'ici que doit se jouer pour tous les États-Unis cette phase dans la lutte pour les droits et libertés de la personne, la lutte pour les droits des gays.
En Israël, on est très loin de tout ça. Le pinkwashing pour Israël correspondait à une nécessité à un moment de son histoire, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, de changer son image mondiale qui était désastreuse, et qui est désastreuse pour une raison très simple, l'occupation de la Palestine, le sort réservé à la population de Gaza sous blocus. Je vous rappelle que tout ça dure depuis 1967, sous des formes diverses, et même depuis 1948, en tout cas, un des points de départ est incontestablement la Nakba, c'est-à-dire le départ forcé des Palestiniens, de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens, qui en tout cas a eu lieu en 1948. Donc l'État israélien se constitue en 1948 et tout au long de son histoire a d'abord une image très positive dans l'Occident, puisque c'est une terre pour les Juifs qui eux-mêmes ont été exterminés par l'Europe qui, au fil des siècles, ne leur avait jamais réservé un destin particulièrement agréable. Les pogroms, c'est l'Europe. La pendaison des Juifs, c'est l'Espagne, etc.
Tolède, surnommée parfois la Jérusalem de l'Occident, garde les traces d'une page sombre du passé de l'Espagne. La péninsule ibérique fut une terre pour les Juifs pendant 15 siècles, jusqu'en 1492. Les monarques catholiques espagnols ordonnèrent alors l'expulsion des séfarades d'Espagne, déclenchant une vaste diaspora qui s'étendit de l'Empire ottoman au Nouveau Monde. Aujourd'hui, le gouvernement espagnol veut réparer ce qu'il qualifie d'erreur historique. Il a approuvé un projet de loi visant à faciliter la naturalisation des descendants des Juifs expulsés. Les bénéficiaires de cette mesure pourraient obtenir...
Donc, les Juifs d'Europe, si j'ose dire, après-guerre, ont besoin de trouver une terre pour reconstituer, au sens propre, le peuple juif qui avait été en grande partie anéanti par Hitler et ses complices. Et donc, Israël arrive là et évidemment est doté d'un capital de sympathie considérable à travers le monde. Ce capital de sympathie va s'éroder au fur et à mesure qu'Israël va multiplier ses conquêtes et au fur et à mesure surtout que le monde va commencer à découvrir comment Israël traite les Palestiniens et que les réponses d'Israël, la répression d'Israël, la domination d'Israël à Gaza, en Cisjordanie, sur Jérusalem-Est, sur le destin des Palestiniens à l'intérieur même des frontières de 1948 qui représentent 20% de la population, sur tous ces points-là, Israël va se durcir, se raidir et mettre en place des systèmes complexes, multiples, différenciés, d'apartheid, qui consiste, je vous le rappelle, à séparer les populations. Et donc, en Israël, on assiste à des séparations physiques de populations, y compris par des checkpoints, des barrages militaires, des murs, des barbelés, mais aussi, évidemment, par des droits civiques qui sont donnés de manière inégalitaire, selon que vous soyez palestinien d'intérieur, de Jérusalem, des territoires, ou évidemment de Gaza, où vous n'avez là absolument aucun droit, si ce n'est de celui de prendre des bombes dans la figure.
Percutant et lourd de sens qu'aucune autre ONG internationale de défense des droits de l'homme n'avait utilisé par le passé pour qualifier la politique d'Israël à l'égard des Arabes sur son sol et des Palestiniens dans les territoires occupés. En préambule de son rapport, Human Rights Watch rappelle que l'apartheid se caractérise par trois éléments principaux. L'intention de maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre, un contexte d'oppression systématique sur le groupe marginalisé et des actes inhumains.
Donc, l'image d'Israël va se dégrader tout au long des années 90-2000. Et Israël va chercher les moyens de redresser cette image. Et les points forts du pays, finalement, il y en a trois. Il y a le tourisme religieux, mais le tourisme religieux à Jérusalem en particulier, à Bethléem aussi, à Nazareth un petit peu, est un tourisme, si vous voulez, qui est indépendant de l'État d'Israël à tous les sens du terme. Il existait avant l'État d'Israël, les pèlerinages, et il continuera quel que soit le statut et le destin de Jérusalem dans les années à venir. Deux, le tourisme religieux a comme caractéristique d'être un tourisme du Sud, principalement. L'essentiel des touristes viennent de pays plutôt pauvres, notamment de pays latino-américains, voyagent en groupe, dorment souvent dans des monastères ou des couvents, et donc dépensent très peu d'argent. Donc c'est des touristes, si vous voulez, très peu intéressants, indépendamment du fait qu'ils n'ont pas tellement envie de se dévouer au destin d'Israël, puisqu'ils sont chrétiens, catholiques, et qu'évidemment, ils ont foi en Jésus, qui est, pour une partie des messianismes au pouvoir en Israël aujourd'hui, l'ennemi public numéro un. Donc, il fallait inventer quelque chose. Qu'est-ce que peut vendre Israël ? Le tourisme religieux, l'armement. Enfin, l'armement, ça fait bander des gens, mais pas énormément de monde non plus. Donc, c'est pas quelque chose qui va faire venir du tourisme. La situation géographique d'Israël. Israël est au bord de la Méditerranée, jouit d'un climat très favorable, et Tel Aviv va être une ville qui va profondément se transformer, parce que c'est le capitalisme qui est comme ça. Israël va changer de nature avec la privatisation de son économie qui va être menée par Netanyahou, toujours le même, à la fin des années 90. On va tout vendre. On va vendre El Al, on va vendre les logements, on va vendre l'immeuble des syndicats, on va vendre tout, et on va privatiser l'économie, et on va évidemment favoriser ce qui est déjà un point fort d'Israël, c'est-à-dire le high-tech. Et enfin, le high-tech est un point très fort d'Israël aujourd'hui. C'est le pivot de la nouvelle économie israélienne, et c'est un des pivots du capitalisme mondial, puisque le matériel sécuritaire, surveiller les populations, surveiller les salariés, etc., fait partie des choses fondamentales aujourd'hui pour les grandes entreprises et pour les pays. Donc Israël, évidemment, vend ses systèmes de sécurité dans le monde entier. On l'a vu ces dernières années avec Pegasus, par exemple, qui a été vendu, je vous le rappelle, à 53 pays, alors que ce système Pegasus n'avait reçu aucune autorisation d'exportation internationale. Et donc violer tous les traités que tous ces gens-là signent à longueur de journée devant les organisations internationales et sur le commerce des armes, évidemment, et sur les licences d'exportation de systèmes de surveillance.
22 000 km² seulement, à peine plus vaste que les îles Fidji, et pourtant ce tout petit territoire qu'est Israël peut se prévaloir de compter une start-up pour 1 500 habitants. C'est le plus fort ratio au monde. En quelques décennies, ce pays de 8 millions d'habitants est devenu une vitrine de l'innovation et de la haute technologie. Une pépinière à start-up, au point de constituer l'un des écosystèmes les plus performants du monde.
Passons. Donc les armes, pas terribles. La high-tech, pas sexy. Les religieux, plouf. Donc il faut inventer quelque chose. Et le climat, l'évolution même de Tel Aviv, va leur donner l'idée de vendre Tel Aviv comme ville homosexuelle. Alors là, je rétropédale un peu, si ça ne vous embarrasse pas, pour revenir à pourquoi Tel Aviv est devenue une ville homosexuelle, puisque la surprise, dans les années 90, à la fin des années 90, quand on commence, nous, les gays occidentaux, à découvrir qu'il se passe des choses à Tel Aviv, la surprise est totale. Personne ne s'attend à ce que Tel Aviv devienne un spot gay. À l'époque, c'est Berlin d'abord, Miami ensuite, New York, San Francisco traditionnellement, et puis un peu Amsterdam, un peu Paris, un peu Madrid, un peu tout ce que vous voulez. Mais c'est pas Tel Aviv. Personne ne va à Tel Aviv, et encore moins pour draguer. Et pourtant, Tel Aviv, de fait, offre, et je mets des guillemets au mot offre, hein, parce que c'est pas un très joli mot, mais c'est aussi qu'elle s'est conduite, Tel Aviv, d'une certaine manière, comme une mère maquerelle. Donc, je suis bien obligé d'employer un langage de mère maquerelle. Tel Aviv offre des garçons qui sont des garçons merveilleux du point de vue de leur forme physique, parce que ils ont grandi au soleil, parce qu'ils ont fait 3 ans d'armée, parce que pour certains ou certaines, puisque c'est valable aussi pour les filles, ils sont passés par les kibbutz, et donc le travail de la terre, le travail agricole, le rythme de vie collectif, avec aussi les aspects positifs de la vie du kibbutzim, tout ça a des côtés qui fait que va émerger, appelé de ses voeux par Ben Gourion lui-même, fondateur et premier ministre de l'État d'Israël, ce qu'ils ont appelé le juif nouveau, le nouveau juif. Et le nouveau juif va apparaître dans les années 50. On va l'appeler le Sabra. Le Sabra, c'est la personne qui est née sur la terre d'Israël de parents venus d'ailleurs, et qui a grandi sur la terre d'Israël, et qui a été, au sens propre, si vous voulez, façonné par la terre d'Israël. Son corps est façonné par la terre d'Israël. Et son corps, la terre d'Israël, par le fait que ça soit une terre militarisée, soumise à une logique productiviste, je pense notamment à l'agriculture qui va se développer de façon intensive dans toute cette région, avec tous les problèmes que ça pose par ailleurs, ça va être un homme merveilleux. ça va être un homme merveilleux. Et ça va changer, si vous voulez, complètement, aux yeux d'Israël elle-même, l'image de l'homme juif.
J'ai prié pendant 2 ans. Louange à Dieu, louange à toi, maman.
L'image de l'homme juif jusqu'à la création d'Israël, c'est soit un intellectuel occidental intégré, donc qui d'une certaine manière a renié ses racines, ou les amis entre parenthèses. C'est contre eux que vont se battre Ben-Gourion et ses amis en leur disant « vous devez participer à la création d'Israël ». Donc la connexion va être très 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 forte avec l'Europe, mais la transformation va être importante aussi pour la deuxième partie qui va peupler l'essentiel d'Israël à partir de 1948, qui sont les Juifs venus d'Orient. Que ça soit les Juifs maghrébins, que ça soit les Juifs d'Irak, que ça soit les Juifs du Yémen, que ça soit les Juifs d'Iran, que ce soit les Juifs d'Égypte. Rien ne ressemble plus à un arabe qu'un juif séfarade ou qu'un juif d'Orient ou qu'un juif misraïm. D'ailleurs, la plupart des historiens appliquent aujourd'hui le thème de juif arabe parce que c'est celui qui correspond le mieux à cette réalité par rapport aux juifs occidentaux, y compris en termes de caractéristiques physiques. Qu'est-ce qu'aiment les juifs arabes? D'abord, ils aiment parler arabe. Ensuite, ils aiment fréquenter les arabes. Ensuite, ils aiment un mode de vie qui vient de la culture arabe, en termes d'alimentation, en termes de mode de vie. Et ensuite, ils ont vécu pendant des décennies dans des conditions bien moins conflictuelles que les juifs occidentaux avec leurs voisins. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de pogrom, qu'il n'y a pas eu de massacre, qu'il n'y a pas eu tout ce que vous voulez dans le monde arabo-musulman du XVe siècle à nos jours. Mais il y en a eu infiniment moins et dans des proportions infiniment moins régulières que dans toute une partie de l'Europe, et notamment l'Europe centrale et orientale. Donc, ces juifs orientaux, qu'est-ce qu'ils aiment? Eh ben, ils aiment parler arabe, ils aiment faire la fête, ils aiment la vie de famille, ils aiment chanter, ils aiment rire, ils aiment plaisanter, mais faire la guerre, c'est pas leur truc. Et notamment faire la guerre aux Arabes. Donc il faut non seulement changer les juifs occidentaux, qu'on va changer par l'armée, par le service militaire, mais aussi changer les juifs orientaux. Arrêter de chanter, arrêter de rigoler avec les Arabes, allez leur faire la guerre, virilisez-vous, devenez des hommes, ne soyez plus des femmelettes qui pensaient qu'à chanter et à prier. C'est très important, ça a l'air pas sérieux ce que je vous dis, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que cette idée de faire venir un nouvel homme juif à partir de juifs orientaux et qui était plutôt, disons, dans une coexistence globalement pacifique avec les Arabes, et de juifs occidentaux qui, eux, étaient dans une situation extrêmement conflictuelle avec leurs voisins blancs, avec leurs voisins de palier, avec leurs voisins de village, avec les voisins du pays d'à côté, etc., qui n'ont cessé, au fil des temps, de les massacrer, de les harceler. Cet homme nouveau, il va être exalté, au sens propre du terme, par toute une iconographie, dans les années 50 et 60, qui est totalement venu de l'iconographie stalinienne. On va vous montrer des magnifiques gaillards en salopette, en tenue militaire, blonds aux yeux bleus, brandissant soit des fourches, soit des fusils mitrailleurs, faisant la guerre ou travaillant la terre, mais on va exalter ce corps juif, ce nouveau corps juif. ce nouveau camp juif qui va, dans les années qui viennent, courir tous les soirs et tous les matins sur le grand boulevard qui longe cette plage de Tel Aviv, qui était un grand boulevard, comme dans toutes les villes du monde, dévolu principalement aux bagnoles. Et on va un petit peu transformer l'image de Tel Aviv. Deux, la high-tech est hyper connectée mondialement. La high-tech ne fonctionne jamais de manière autonome. Vous avez des ingénieurs à Tel Aviv, des financiers sur la côte ouest américaine et des développeurs à Bangalore en Inde. Tout ça est un système totalement mondialisé. Donc Tel Aviv va sortir de son isolement. Et donc, petit à petit, vont se créer d'abord des beaux hôtels, puis tout ce qui va avec la culture occidentale aujourd'hui. Les terrasses, les bars à sushis, les boutiques hôtels, les discothèques, les spas. Donc, tout ce corpus urbain, si vous voulez, qui va se créer à Tel Aviv, qui va transformer l'image de la ville, avec beaucoup, beaucoup d'ailleurs d'investissements, et ça c'est très important, de la mairie, qui va aussi transformer physiquement la ville. Dans les années 50, on l'appelait la ville grise, parce qu'elle était entourée d'industries qui, comme toutes les industries, faisaient de la fumée, refaisaient retomber de la suie sur la ville, et donc la rendait triste et sale. Deux, c'était une ville de fonctionnaires. Donc Tel Aviv va devenir une ville de plus en plus agréable, de plus en plus délicieuse, et le gouvernement israélien, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, qui est une femme intéressante, parce que ça a été une agent du Mossad. Elle a été en poste dans ses jeunesses, à Paris et à Londres. Donc elle connaît très bien les opinions occidentales.
Tzipi Livni revient dans l'arène politique. À moins de 2 mois des élections législatives israéliennes, l'ex-chef du parti Kadima vient de créer une nouvelle formation centriste baptisée le Mouvement. Son objectif, revenir au Parlement et combattre la politique conduite par le gouvernement Netanyahou.
Je crois qu'Israël prend une mauvaise orientation. Il faut changer la politique de ce gouvernement pour faire reculer les menaces qui pèsent sur Israël. C'est ce que je compte faire.
Elle sait très bien le degré d'hostilité d'une partie de la jeunesse occidentale à Israël sur la question, évidemment, du droit des Palestiniens et du droit de la Palestine. Comme agent du Mossad ayant vécu à Paris et à Londres, elle connaît aussi parfaitement les modes de vie occidentaux et les transformations des modes de vie occidentaux. Et donc, elle voit bien, au début des années 2000, une partie du monde arabe se raidir à l'égard de l'Occident et des gays, et une partie de gays se raidir à l'égard du monde arabe. Vous allez avoir deux phénomènes qui vont être concomitants. D'un seul coup, la poussée mondiale des intégrismes religieux, qui concerne évidemment les musulmans, mais qui concerne aussi les juifs, les catholiques, les bouddhistes, c'est pas une question propre à l'islam, c'est une question générale. Haro sur les homosexuels. Mais ce haro sur les homosexuels, il va se traduire de manière particulièrement brutale dans les pays arabes, et notamment dans les pays arabes qui avaient, par tradition, une certaine tolérance à l'égard de l'homosexualité, voire une ouverture d'esprit à l'égard de l'homosexualité. Je pense à l'Égypte en particulier, mais je pense aussi au Maroc, je pense aussi à la Tunisie, je pense aussi à la Libye. Donc ça fait toute une série de pays où les gays étaient ni bienvenus ni malvenus, mais pouvaient à la fois vivre en tant qu'homosexuels dans ces pays et surtout, évidemment, avoir des lieux de sociabilité qui existaient et qui ont tous été fermés depuis, en particulier en Égypte et évidemment en Libye. Donc, cet rétrécissement de l'espace physique pour les gays, cette relation un peu ambiguë qu'avaient pas mal d'homosexuels occidentaux, et là pour le coup français au Maroc, avec les arabo-musulmans vécus comme objet de désir, mais vécus comme objet de désir du point de vue de l'exploitation, avec l'exploitation sexuelle de cet objet de désir qui elle-même était ambiguë, puisqu'elle renvoyait aussi à ce désir d'être dominée par le corps arabe. Donc, à la fois, on voulait les dominer d'un point de vue économique, en les dominant, si vous voulez, avec l'argent, en allant sur place, en dépensant de l'argent, en leur donnant de l'argent, et eux, en réponse, vous dominez sexuellement. Et ça, c'est toute l'iconographie puissante qui va se mettre en place au début des 2000. Donc, le corps oriental devient un objet de fantasme, mais plutôt un objet de fantasme audiovisuel, par le cinéma et par la pornographie, et beaucoup moins un objet de fantasme physique, puisque c'est de plus en plus difficile, et aux yeux des pays occidentaux, de plus en plus risqué d'aller dans les pays arabo-musulmans. Deux, le 11 septembre va produire ses conséquences avec la méfiance généralisée de l'Occident à l'égard du Sud. Donc tout ça va mettre, d'une certaine manière, un coup d'arrêt à cette relation historique basée sur une forme d'orientalisme sexuel, dont on peut évidemment discuter et la forme et le fond, mais qui en tout cas existait et qui va peu à peu disparaître dans les années 70. Donc on est aux alentours des années 2007, 2008, 2009, juste avant les années 2010 en tout cas. Et Tzipi Livni, qui est donc cette ministre des Affaires étrangères, cette femme venue du Mossad, va mettre en place une structure qui va s'appeler Brand Israël. Brand Israël, comme son nom l'indique, ça veut dire vendre Israël. Et cette structure, vendre Israël, elle va le confier à un diplomate qui était consul à Los Angeles, qui s'appelle Ido Aharoni. Et Ido Aharoni, évidemment, comme consul à Los Angeles, a vu toutes les méthodes de marketing moderne pour vendre le cinéma, le rêve, Hollywood, etc. etc. Donc il connaît bien ça. Ido Aharoni va constater que Israël a un atout considérable, c'est ses plages. Tel Aviv, c'est un long boulevard avec une plage de 10 km. Et il va prendre l'exemple du Brésil. Il va dire, bah, vous voyez, le Brésil, c'est hyper violent, il y a des règlements de compte entre les gangs, tout va mal, etc. Et pourtant, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont chaque année au Festival de Rio, et il y a des millions de gens à travers le monde qui rêvent d'aller un jour à Rio. Ce qui est vrai. Et donc, comment le Brésil a fait pour vendre une image, si vous voulez, si sex and son, masquant, d'une certaine manière, une réalité sociale, une réalité économique, une réalité culturelle, qui est bien plus difficile au Brésil.
Au Brésil, au moins 18 personnes sont mortes ce jeudi lors d'une opération policière dans une favela de Rio de Janeiro. Selon la police, 16 d'entre elles étaient suspectées d'appartenir à des bandes criminelles. Une habitante de 50 ans et un policier de 38 ans ont également perdu la vie. La favela Complexo do Alemão est le théâtre régulier d'affrontements meurtriers entre forces de l'ordre et criminels.
Rio de Janeiro, mégalopole de 6 millions d'habitants à 12 heures de vol de Paris. Ses célèbres plages d'Ipanema et Copacabana. Ses somptueuses propriétés avec une vue qui embrasse toute la baie. En plein développement, le Brésil connaît une insolente croissance économique de 7,5%. L'expression « miracle brésilien » est sur toutes les lèvres, selon le magazine Forbes.
Donc comment vous allez vendre? Vous n'allez pas vous mettre sur le marché de Sex and Son, qui est déjà très largement occupé par de très nombreuses villes au monde pour les hétérosexuels. Rio est un rêve hétérosexuel. Il faut se situer sur ce créneau des villes homosexuelles. Or, ce créneau des villes homosexuelles balnéaires est très peu occupé. Il y a Miami, principalement comme rival, qui est aussi une ville balnéaire. Mais Miami, d'une part, est une ville contrastée, d'autre part, est une ville américaine, et donc assez difficilement accessible à une grande partie du marché des gays occidentaux qui réside en Europe occidentale. Les grands marchés, au sens économique du terme, des gays occidentaux, ben c'est l'Europe du Nord, les Suédois, les Danois, etc., les Allemands, les Hollandais, les Anglais, et un peu moins, parce qu'on est un peu moins friqués, tout simplement, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, etc. Donc, les friqués, c'est l'Europe du Nord. L'Europe du Nord va se connecter très rapidement avec Israël dans un double mouvement idéologique et technique. Le mouvement idéologique, ça va être la montée en puissance des extrêmes droites nationalistes dans tous ces pays, et évidemment la montée en puissance des extrêmes droites nationalistes en Israël. Ces gens-là vont se rencontrer au sens propre sur un projet simple, dehors les Arabes. Deux, les homosexuels occidentaux que la gauche a cru avoir conquérir, mais n'a en tout cas pas su garder, vont aussi faire un pas considérable vers l'extrême droite, partout. Hein. Dans toute l'Europe du Nord, des homosexuels vont se retrouver députés, ministres, dirigeants de partis d'extrême droite. En France, vous avez à peu près la moitié du groupe parlementaire du Front National, du Rassemblement National, pardon, qui est homosexuel. La moitié. Et je peux vous dire des noms, si vous voulez, des députés, le député d'Arles, Sébastien Chenu, etc., etc. Il y en a un nombre extraordinaire. Donc, ces homosexuels de droite, en Europe, eh ben, ils vont chercher des nouveaux endroits pour aller. Et donc, là, Tel Aviv arrive avec sa campagne marketing qui lance à partir de 2011. Des dizaines de millions de dollars vont être investis dans les radios gays, dans les journaux gays, dans les médias sociaux gays, dans les clubs gays, invitations, vous venez à Devaux, vous payez pour un concours dans les discothèques, tel truc, vous allez gagner un week-end à Tel Aviv, etc., etc., etc. Et de fait, la proposition est quoi ? La proposition est de passer 3 ou 4 jours, ce qui est facile depuis Berlin, Londres, Paris, etc., à Tel Aviv, dans un hôtel très agréable. Et donc tout ça se met en place avec un financement triple d'Israël, et ça c'est très intéressant, parce que le financement va être d'abord le ministère du Tourisme, donc c'est clairement un objectif faire venir du tourisme, donc faire rentrer de l'argent dans les caisses d'Israël. Deuxièmement, c'est le financement de la ville de Tel Aviv, qui, comme elle a besoin de changer son image, bah, va être aux premières loges de ça. Le slogan précédent d'Israël, avant la ville qui ne dort jamais, qui est le nouveau slogan de Tel Aviv, pardon, il n'y avait pas de slogan pour Tel Aviv. Dieu en héritage, c'était le slogan d'Israël jusqu'au début des années 2000. C'est-à-dire qu'on venait en Israël pour Dieu, qu'on soit juif, qu'on soit musulman ou qu'on soit chrétien. Et donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, bah, si vous venez pour Dieu, vous n'allez pas dépenser de l'argent dans les saunas ou dans les clubs de Tel Aviv à draguer des garçons, ça c'est sûr. Donc voilà, donc c'est vraiment tout un nouveau public qui va se mettre en place avec le syndicat des hôteliers de Tel Aviv qui va financer un tiers de la campagne. Remplir les hôtels est un objectif. Et d'ailleurs, la Gay Pride va être choisie. Donc la Gay Pride, en général, à Tel Aviv, est le premier week-end de juin, parce que c'était un week-end où il n'y avait pas de congrès internationaux, congrès high-tech, bien entendu, puis il n'y a pas de fête juive, il n'y a pas Pessah, il n'y a pas Yom Kippour, il n'y a pas tout ça. Donc ce n'était pas un endroit où les hôtels de Tel Aviv allaient être particulièrement occupés. Et donc, évidemment, on pouvait ouvrir très largement la fête au Gay Pride. Et évidemment, quand vous faites ça, quand vous faites venir... Quand même, c'est des opérations importantes. Hein. C'est-à-dire que les dernières Gay Pride, avant le Covid, puisque depuis le Covid, ça a été difficile à faire repartir, les dernières Gay Pride, vous faites venir 50 à 60 000 personnes en un week-end à Tel Aviv. Donc, ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en termes de dépenses. Et vous faites venir 50 à 60 000 personnes les week-ends de la Gay Pride, mais vous en faites venir quelques milliers chaque week-end, puisque Tel Aviv est dans son interconnexion avec le reste du monde et notamment avec l'Europe. Bah, vous avez EasyJet, vous avez Transavia, vous avez Ryanair, etc., qui font des vols, et vous venez de Stockholm ou de Paris pour 300 ou 400 euros, c'est-à-dire des sommes pas extrêmement importantes en termes de coûts de voyage. Moi, j'ai écrit « Mirage Gay à Tel Aviv », il est sorti en 2017. À l'époque, quand je l'écris, je suis un peu seul en France à en parler, quoi. C'est-à-dire que je fais quand même une tournée, mais je peux pas. C'est vraiment la clandestinité absolue, et c'est vraiment les queers de l'ombre, quoi. C'est le tout début de ce qui va s'appeler plus tard, et que vous connaissez certainement mieux que moi, mais le début des Pink Blocs, le début, etc. Et mon métier, c'est de raconter des choses qu'on m'a racontées, ou que j'ai trouvées, que j'ai lues, que j'ai écrites, et je sais rien faire d'autre. Et donc, les faits sont là. Mais les faits à propos d'Israël ne sont pas acceptés. Et donc, vous êtes évidemment victime, comme je l'ai été, et mon éditeur l'a été, Libertalia, de campagnes, de menaces, de haine. À chaque fois que j'arrivais dans une ville, je recevais des tweets, des gages, on va te faire la peau, etc. Donc, si vous voulez, la pression qui est sur vous est très forte. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate ? Je constate qu'un peu partout dans le monde, Alors, c'était déjà le cas, il faut être juste, avant 2017, dans le monde anglo-saxon. C'était le cas en Australie, c'était le cas en Angleterre un peu, c'était le cas un peu aux États-Unis. Mais en France, c'est lié pour moi à pas mal de choses qui se sont réveillées ces dernières années. Je pense à Nuit Debout en particulier. Je pense que Nuit Debout a été un moment où un ensemble de queers se sont affirmés dans une nouvelle radicalité. Mais depuis, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu la manifestation contre la réforme de retraite, il y a eu les mouvements de jeunesse et maintenant les révoltes des banlieues, évidemment. Et maintenant, il y a la question de la Palestine. Et je remarque depuis octobre, depuis que la destruction génocidaire de Gaza est en cours, il y a un réveil de conscience chez un certain nombre d'homosexuels et de lesbiennes, et je pense qu'il faut insister là-dessus, puisque le pinkwashing était une construction pour les homosexuels qui excluait de toute façon les lesbiennes. Les lesbiennes, et c'était quand même quelque chose d'assez violent, même à écouter là-bas du point de vue des lesbiennes, ont toujours été exclues du pinkwashing, elles étaient considérées comme pas intéressantes en termes de marketing. Et deux, et ça on me l'a dit en Israël, une lesbienne qui part en voyage, elle va pas aller dans un 5 étoiles de luxe à l'intercontinental de Tel Aviv, dépenser $350 par nuit, elle va prendre sa tente, ses grosses godasses, et elle va aller marcher dans le Negev et dormir sous la tente. Donc, c'est l'image qu'ils en ont. Hein. C'est l'image qu'ils se sont fabriquée. C'est-à-dire que la lesbienne n'est pas intéressante parce que c'est une nana qui préfère marcher en godillot dans le désert que boire des cocktails à Tel Aviv. Et donc, si vous voulez, là aujourd'hui, ce réveil des consciences, il est très important parce qu'il est aussi à un moment où les gays et la communauté queer, je vais aller plus large que sur les gays là, parce que c'est vrai, la communauté queer au sens large, est en train littéralement d'abandonner Israël. Vous avez deux sortes de gays en Israël aujourd'hui, et je dis gays parce que c'est vraiment ce que j'ai observé le mieux, hein, mais les communautés sont évidemment très diverses, très variées, je pense en particulier à la communauté trans qui est importante à Tel Aviv et qui s'est manifestée avec beaucoup de radicalité ces dernières années. Donc petit à petit, les gens à Tel Aviv, une certaine gauche radicale à Tel Aviv, avant même que la gauche radicale en France ou en Europe occidentale s'y intéresse, se sont évidemment intéressés à la question du pinkwashing, ont dénoncé la question du pinkwashing, ont organisé des contre-cortèges et des pink blocs à l'intérieur même des prides de Tel Aviv ces dernières années, ont participé en tant que pink bloc contre l'occupation aux différentes manifs qu'il y a eu à Tel Aviv entre novembre 2022 et octobre 2023 contre la réforme de la Cour suprême et d'une manière générale contre la droite israélienne et l'extrême droite messianique au pouvoir.
Mass protests erupted with renewed fury in Israel on Monday after lawmakers pushed through a controversial bill overhauling the country's judiciary. Demonstrators blocking Jerusalem's main highway faced a water cannon and had to be dragged away by officers. It's a political victory for Prime Minister Benjamin Netanyahu's hardline religious nationalist coalition, but one that has provoked a political crisis and sparked the largest mass anti-government protests in the country's recent history.
Tout ce système qui s'est construit pour faire avaler à l'Occident la vision israélienne de la situation, c'est un conflit religieux, c'est pas un conflit national, ce n'est pas un conflit colonial, c'est un conflit général du monde moderne, du monde civilisé, contre la barbarie. Le pinkwashing est venu à la rescousse de tout ça. Donc tous ces gens-là, petit à petit, ont pris conscience que isoler la question homosexuelle de l'ensemble des questions qui se posent en Israël, principalement la question de la Palestine et du droit des Palestiniens et de la fin de l'occupation. Et donc l'argument, ces merveilleuses plages, ce boulevard, cette ville qui ne dort jamais et tout, c'est valable pour le gay de Montpellier ou de Barcelone ou de Stockholm, mais c'est pas valable évidemment pour l'homosexuel de Naplouse ou d'Hébron ou de Ramallah. Donc voilà le cadre, et aujourd'hui, la mobilisation, la nouvelle mobilisation, en particulier de la communauté queer française à Paris, à Lille, à Bordeaux et dans différentes villes dont j'ai eu des échos, pour afficher sa solidarité avec la Palestine, mais aussi pour expliquer, pour raconter, pour démonter ce mécanisme du pinkwashing et s'interroger sur tout ce que ça veut dire aujourd'hui dans la manière dont les homosexuels sont passés en 40 ans ou en 50 ans d'une force de révolte à une force d'intégration, voire de domination. C'est une question qui est une question morale, c'est une question philosophique, c'est une question éthique, mais c'est une question dont on ne sera pas surpris compte tenu du fait que tous les problèmes que pose Israël sont aussi des problèmes d'éthique et de morale, qui depuis le 7 octobre est devenu non plus une question locale, mais une question mondiale, où soit elle sera réglée mondialement, soit ça sera une guerre mondiale.
Je m'appelle Mohamed Paz, je suis militant au sein de LGBT pour la Palestine et dans le collectif Boycott Apartheid Israël Paris Banlieue pour développer les actions de sensibilisation au boycott d'Israël jusqu'à ce que cet État se conforme au droit international, c'est sa politique de colonisation et d'apartheid. Voilà. Du coup, le collectif, en fait, c'est un collectif à la fois anticolonialiste, donc qui soutient toutes les initiatives qui dénoncent et combattent la politique coloniale et d'apartheid que subit le peuple palestinien. Et plus particulièrement, on travaille à sensibiliser les LGBTI+, français, françaises et francophones aussi, à l'instrumentalisation de nos luttes et de nos identités par l'État israélien dans sa stratégie de pinkwashing. Et en gros, concrètement, nos actions, elles sont un peu en trois niveaux, d'une certaine manière. C'est à la fois rendre visibles les LGBTI+, palestiniens, palestiniennes, c'est-à-dire relayer leurs paroles, notamment par l'intermédiaire des deux principales organisations queer palestiniennes, El Qaous et Aswat. Et à la fois soutenir le Queer Cinema for Palestine, qui existe depuis 2021 et qui est un festival de cinéma anticolonialiste et queer. Ensuite, le deuxième point, c'est sensibiliser les LGBTI+ francophones sur la thématique du pinkwashing israélien, mais aussi de l'homonationalisme en intervenant, alors que ce soit en université ou dans des colloques, à Aubervilliers, Nanterre, Toulouse, Bruxelles, sur des radios, mais aussi dans des lieux militants communautaires. On intervient aussi lors des Prides, notamment en 2015, où il y avait le char de l'Office de tourisme de Tel Aviv qui était présent à la Pride, qui était un gros marqueur de la stratégie de pinkwashing israélienne, qu'on a beaucoup dénoncé. Mais aussi, on essaie d'être présent au Pride de banlieue, et puis à l'époque aussi au Pride de nuit, qui étaient des Prides beaucoup plus militantes. Et puis après, le troisième point de notre travail au sein de LGBT pour la Palestine, c'est tout ce qui est action de boycott culturel. Donc en gros, ça peut être demander à des artistes de la communauté et aux artistes alliés de ne pas performer en Israël, comme ça avait été fait pour Sam Smith ou Lana Del Rey par exemple, et qui avaient, suite à nos sollicitations, qui avaient annulé leur concert en Israël.
Welcome to Festival Barrier in Le'avot HaBaishan. Our headline.
Over a month ago, independent Israeli productions company Naranja announced the lineup of Meteor Festival.
Everything in the kibbutz. This, that, that again.
An international music festival set to take place in the Lower Galilee from September 6th to September 8th. The festival offers one of the most eclectic lineups Israel has seen in recent years. Lana Del Rey was the last artist to be announced on the lineup as a strategy by the producers to reduce pressure from the boycott divestment sanctions movement from her back. This strategy failed.
D'ailleurs, petite parenthèse, en fait, puisqu'on peut lire dans différents médias, j'ai lu il n'y a pas très longtemps dans Franc-Tireur. Oui, c'est un ami qui m'a envoyé ça. Je ne suis pas abonné, je ne le lis pas par gaieté de cœur. Mais du coup, dans ce média et dans d'autres, on dit que le boycott culturel, c'est un boycott d'individus. Donc, c'est pour essayer de créer le lien entre ce boycott et on boycotte des juifs, et en l'occurrence, c'est absolument pas un boycott sur des individus, c'est un boycott qui est orienté sur des institutions. Et tout ça tant qu'Israël continue sa politique de colonisation, d'apartheid et de nier les droits essentiels du peuple palestinien. Donc c'est pas un boycott pour se faire plaisir, c'est un boycott politique. Et enfin, dans la partie de boycott culturel, on a parfois, et heureusement c'est pas très fréquent, des actions un peu plus musclées, on va dire. Et ça avait été le cas en 2019, lors de l'Eurovision qui avait eu lieu à Tel Aviv. Et donc on a beaucoup appelé à boycotter cet événement. À l'époque, c'était Bilal Hassani qui représentait la France. On est intervenu lors de l'enregistrement des quarts et demi-finales, en montant sur scène avec des banderoles, des pancartes pour rendre visible en fait un appel qui était quand même très important dans les communautés LGBT et au-delà, qui était le fait de ne pas normaliser en fait cet état en acceptant de se rendre à Tel Aviv alors que c'est un état colonial et d'apartheid. I can't stay in one place. When you start to get bitter and you want to get better, you gotta change the taste. I gotta hit the highway, yeah, here I go again. Got nothing in my pocket, but in my heart there's a burning flame. I'm a savage runaway since 1993. Got nothing in my name, but that's about to change. 'Cause I'm going to the Wild Wild West, where the only rest is for the wicked. Where even if you do your best and you pass that test, doesn't mean you'll make it. Going to the Wild Wild West, 'cause it's the best place for business. Got a can-do attitude and nothing to lose. So why the hell wouldn't our escape? En fait, moi, j'ai d'abord commencé à militer sur les questions anticoloniales. Donc, en fait, à double titre, je suis issu de cette histoire, à la fois comme descendant d'un pays colonisé, d'un pays qui a été colonisateur. Et puis, étant donné que je suis aussi homosexuel et voyant que l'impact de la stratégie de pinkwashing israélienne se développait dans le milieu gay parisien, puisque je suis de Paris, et qu'il y avait une normalisation, en fait, de Tel Aviv comme une destination pour aller faire la fête. Du coup, je me disais, il y a un truc qui ne va pas, en fait, il faut leur expliquer. Et c'est là où, au sein de LGBT pour la Palestine, on a commencé à travailler autour de ça pour essayer de dénormaliser le fait qu'Israël ne soit pas un État comme un autre, en fait. I dressed up and I put it on, hoping I'd fit the scene. Took 30 damn years to figure out. Ouais, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte d'embourgeoisement des LGBT, et puis surtout des G, quoi, des gays. C'est-à-dire qu'on est OK pour sortir et manifester pour nos droits personnels au plus proche. Alors, c'est le droit du mariage, à la parentalité, à la filiation, à la PMA, à la GPA. Mais par contre, on dessert complètement les combats humanistes dans lesquels on était traditionnellement investis. Et j'aime bien citer, du coup, une phrase de Genet par rapport à ça. C'est si quand les nègres sont persécuté, tu ne te sens pas nègre. Si quand les femmes sont méprisées ou les ouvriers, tu ne te sens pas femme ouvrier, alors toute ta vie, tu auras été pédé pour rien. Pour moi, c'est triste, en fait, de passer à côté du cœur de ce qui fait aussi notre spécificité, de ce qui nous rapproche le plus d'une humanité commune. Et voilà. So why the hell wouldn't our escape? Pour moi, en fait, la stratégie de pinkwashing est orientée davantage sur les hommes que sur les femmes, les lesbiennes. On est malgré tout, en fait, dans un système patriarcat. On a plus de privilèges. On est aussi dans un système où les hommes ont plus de pouvoir économique que les femmes. On a aussi cette dimension où les hommes gays seraient plus festifs, etc. Donc du coup, en termes stratégiques, le gouvernement israélien a eu plus intérêt d'orienter cette stratégie de communication auprès des hommes que des femmes. Étant donné qu'on a plus de privilèges, on a moins de facilité à conscientiser le fait qu'en fait ces privilèges ne sont pas des sont pas forcément naturels. C'est aussi un devoir, en fait. Nos privilèges sont aussi un devoir, en fait, envers le reste de la communauté pour aller vers plus de justice. Et voilà, pour moi, c'est peut-être pour ça que les hommes homosexuels ont été visés par la stratégie de pinkwashing israélienne. En fait, c'est en 1936 que la puissance coloniale britannique a criminalisé l'homosexualité en Palestine de 10 ans de prison. À l'époque, donc, les pratiques homo-érotiques en Palestine et dans le Moyen-Orient en général étaient considérées comme anormales, déviantes ou encore, je cite, culturellement typiques d'un retard civilisationnel par les anciens empires et puissances coloniales. Il y a un certain nombre d'auteurs, de poètes arabes qui ont écrit sur ça. Il y a aussi énormément de récits de voyages du 16e et 17e siècle qui montre à quel point l'Occident à l'époque était outré et choqué de voir qu'au Moyen-Orient ou en Inde où il y avait des rapports homosexuels et qui étaient vachement plus normalisés qu'en Occident à l'époque. D'ailleurs, il y a un livre très bien de Laurent Baudouin, qui fait partie d'LGBT pour la Palestine aussi. On a un retournement, à la fois c'est des pays occidentaux qui ont mis en place un certain nombre de lois homophobes, de criminalisation de l'homosexualité, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit aussi en Afrique. Et maintenant, justement, l'imposition, elle est inversée. C'est prouvez-nous que vous n'êtes pas des arriérés en nous montrant à quel point vous traitez bien vos homosexuels. Et donc aujourd'hui, en fait, en Cisjordanie, on a progressivement abandonné ces lois homophobes, sans pour autant normaliser l'homosexualité. Mais en tout cas, ces lois ne sont plus, on ne fait plus appel à ces lois. Par contre, à Gaza, elles sont toujours en vigueur. Donc là déjà on a un truc aussi intéressant sur ce morcellement du territoire. Et pour les LGBT palestiniens, la difficulté c'est à la fois comme pour tout le monde de lutter contre le patriarcat de leur société, mais c'est aussi de lutter contre le colonialisme, parce qu'en l'occurrence le gouvernement israélien n'en a rien à faire qu'on soit LGBTI+ ou pas. En fait un palestinien est discriminé parce qu'il est palestinien, peu importe qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel. Et en fait l'homophobie de leur société est accentuée par la situation coloniale, et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est que y a eu un article qui était sorti il y a plusieurs années qui montrait que les services de renseignement israéliens, qui font partie des services de renseignement les plus développés dans le monde, par écoute téléphonique, par plein de systèmes de surveillance des populations palestiniennes, identifient les personnes homosexuelles, mais aussi des personnes ayant des relations hors mariage ou ayant des maîtresses ou des amants, etc. Et font pression sur ces personnes en les faisant chanter. Donc soit elles leur demandent que ces personnes deviennent des indics pour elles, pour avoir des informations sur des combattants, des résistants, des terroristes, peu importe comment est-ce qu'on les appelle, dans la société palestinienne, soit elles se font outer dans leur communauté. Du coup, se crée en fait dans la société palestinienne une suspicion, en fait, quand on pense qu'une personne est homosexuelle, potentiellement, on pense que c'est une personne qui va être un indic. Et donc voilà. À ça, il faut ajouter le fait que dans le parcours de beaucoup d'LGBTI+, en France notamment, c'est aller vers la grande ville et rencontrer d'autres homosexuels, rencontrer des lieux de vie communautaire, échanger. Ça permet de rapprocher, de fortifier de ces populations. Et qu'en Palestine, c'est très compliqué, puisqu'il y a une entrave physique au déplacement, avec tout le système de morcellement du territoire en Cisjordanie, Gaza qui est complètement enclavé, donc ça c'est mort, on peut pas en sortir, et voilà.
They are checking us. We don't feel free at all, and we don't feel safe either. We can't go anywhere and they ask us where we go and when we come back. They are putting more pressure on us. I work in a supermarket. I am going to work. Now I have to leave an hour before my work starts to be there on time. I feel humiliated being checked this way.
Donc cette impossibilité de se rencontrer physiquement, de se fédérer, de créer un mouvement, et puis après il y a les réseaux sociaux qui sont extrêmement surveillés par les services de renseignement israéliens par rapport au outing tout à l'heure. Donc du coup ça crée une peur constante de se faire outer, de ne pas être sûr en fait à qui on parle, et du coup ça nuit énormément à la création d'un milieu de groupes LGBTI+ en Palestine. Mais malgré tout, il y a quand même l'émergence d'artistes queer palestiniens et palestiniennes comme Bachar Mourad, qui est un artiste pop palestinien queer, Elias Wakim, qui fait du drag et qui est palestinien, Rasha Naheth, qui est une chanteuse, compositrice et musicienne originaire de Haïfa. Mais voilà, il faut quand même souligner que la situation coloniale ne favorise pas ça, que la situation de surveillance de masse ne favorise pas ça, et qu'après, Israël a bon jeu de dénoncer l'homophobie intrinsèque des Palestiniennes à laquelle elle participe grandement. La question en fait des LGBTI+ en Israël est un enjeu stratégique à la fois au niveau national et international. Donc au niveau national, Israël c'est vraiment un patchwork ethnique, culturel. On a les Ashkénazes, donc plutôt les Juifs venant d'Europe, Europe de l'Est jusqu'en Russie, les Séfarades plutôt Afrique du Nord et Méditerranée, les Mizrahis qui sont plutôt du Moyen-Orient, les Falachas plutôt d'Éthiopie, mais aussi on a des Juifs venant d'Inde, du Pérou. Donc on a vraiment un patchwork ethnique et culturel, et avec des personnes qui sont arrivées sur un territoire avec le seul point commun qui est leur judéité, qui pour chacun signifie aussi des choses très très différentes entre un laïc, un athée, un croyant, un orthodoxe. On a vraiment cette diversité qui est très forte en Israël. Mais cette société, en fait, arrive à se fédérer parce qu'ils ont un ennemi commun qui est la figure du Palestinien.
My daughter is Israeli. Her grandmother was born in Israel. Her granddad is from Poland. Her nana is from Morocco. And Pops was born in Argentina. Hey, what can I say? We are a melting pot of culture and identity.
Un ennemi de l'intérieur, de l'extérieur. Donc il y a cette nécessité de faire corps, de faire nation, de se réunir malgré leurs différences. D'ailleurs, beaucoup d'experts disent que s'il n'y avait pas en fait cet ennemi du Palestinien, c'est une société qui serait presque vouée à imploser en fait, tellement cette diversité est parfois presque contradictoire. On a 15% de juifs orthodoxes. À côté de ça, il y a Tel Aviv qui est une sorte de bulle laïque. C'est vraiment des grands écarts perpétuels. Et ce qui accentue ça, c'est aussi la question démographique essentielle pour Israël. Donc, pour faire simple, Israël ne peut pas se permettre d'exclure les 10%, puisque c'est à peu près le chiffre de 10% des populations LGBTI+. On a aussi besoin de ces 10% de la population pour assurer la sécurité de la nation à travers le service militaire. Mais voilà, l'armée, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et c'est pas pour rien qu'en fait, c'est la deuxième armée au monde à avoir reconnu les droits des homosexuels en 1995, juste après les Pays-Bas, en fait. Et c'est là où il y a toute cette ambiguïté, c'est que c'est dans une nécessité démographique, sécuritaire, et c'est opportuniste aussi d'intégrer ces populations LGBTI+ dans le récit national. Et au niveau international, l'idée c'est aussi de donner l'image d'un pays progressiste, respectueux des diversités sexuelles et de genre. C'est montrer au monde qu'Israël est une extension en fait de l'Occident dans ses valeurs, ses modes de vie, sa civilisation, une extension de l'Occident dans un Moyen-Orient arriéré, barbare, misogyne, voilà. Donc là, c'est vraiment, on est au cœur de tout le narratif sur l'homonationalisme qui fait écho en fait à un imaginaire de choc de civilisation.
Alors, l'homonationalisme, c'est un concept qui a été inventé par Jasbir Puar, qui fait référence à l'inclusion de l'homosexualité dans les discours nationalistes des pays occidentaux, et qui aurait prétendument aboli toute forme d'oppression sexuelle à l'encontre des personnes LGBTQIA+, ce qui évidemment est faux, puisque les personnes LGBTQIA+, LGBTQIA+ en Occident souffre encore de discrimination LGBTQIA-phobe. En gros, l'homonationalisme, c'est un concept qui décrit la manière avec laquelle les discours nationalistes et d'extrême droite vont intégrer les droits LGBTQIA+ comme une preuve de modernisme, de libéralisme, de progressisme, tout en perpétuant d'autres formes d'exclusion et de marginalisation islamophobe, raciste, xénophobe. C'est une forme de pinkwashing à l'échelle d'un État, d'une ville ou d'un gouvernement qui fait de l'homosexualité un concept très très occidental et très très blanc et de l'homophobie et de la transphobie des concepts très orientaux.
Mais dans la réalité, en fait, c'est un pays beaucoup moins gay-friendly qui n'est présenté. Au sein de la société israélienne, malheureusement, il y a eu plusieurs événements qui montrent bien qu'il y a aussi une homophobie qui est forte, comme la fusillade devant le centre LGBT de Tel Aviv en 2009. Lors de la Gay Pride aussi à Jérusalem en 2015, il y avait eu 6 personnes qui avaient été poignardées par un juif ultra-orthodoxe. Qui avait déjà attaqué d'ailleurs 3 participants à la Pride en 2005, donc 10 ans auparavant.
Stupeur dans le cortège de la Gay Pride. Des cris retentissent des policiers à court. Cette femme vient d'être poignardée. Et elle n'est pas la seule. En tout, 6 personnes ont reçu des coups de couteau. Ce n'est pas la première fois qu'il commet de tels actes. Ce juif ultra-orthodoxe a déjà attaqué au couteau 3 participants de la Gay Pride de Jérusalem en 2005.
Dernièrement, il y a un certain nombre de ministres qui sont actuellement au pouvoir qui sont ouvertement homophobes. Il y a Rafi Peretz, qui est le ministre de l'Éducation et qui est un rabbin, qui a déclaré en juillet 2019 qu'il était favorable aux thérapies de conversion pour les LGBT, qui les avait d'ailleurs lui-même pratiquées. Il avait aussi auparavant comparé les homosexuels à des chiens. Bezalel Smotrich, qui est le ministre israélien des Finances et ministre adjoint à la Défense, et Itamar Ben-Gvir aussi, qui ont eu plusieurs propos homophobes.
La colère ne retombe pas en Israël. Ces manifestants, membres de la communauté LGBT de Tel Aviv, exigent toujours la démission du ministre de l'Éducation, Rafi Peretz, également rabbin, à l'origine ses propos homophobes prononcés samedi lors d'une interview télévisée.
Quand un ministre de l'Éducation dit que les gays devraient subir une thérapie de conversion forcée et qu'ils devraient changer de sexe, c'est inacceptable. Ça appartient au Moyen-Âge, pas à 2019.
Quand un ministre de l'Éducation dit ce genre de choses, cela montre son attitude et ses intentions envers le système éducatif, et cela nous ramène à des périodes sombres.
Le premier ministre actuel, Benjamin Netanyahou.
Et donc toutes ces personnes siègent au gouvernement. Bon, de toute façon, c'est un gouvernement d'extrême droite, donc c'est pas étonnant. Mais donc du coup, voilà, on a à la fois une vitrine marketing et puis après, on a une réalité interne avec la composition d'un gouvernement, un certain nombre d'attaques, etc. Ben pour se mobiliser, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre, nous écrire, nous contacter uniquement via notre page Facebook, donc LGBT pour la Palestine. Et après, bien sûr, rejoindre les mouvements de boycott d'Israël, donc sur Facebook aussi, boycott Apartheid Israël, Paris banlieue. On fait parfois des actions de sensibilisation, de boycott devant les supermarchés. Vous retrouverez aussi épinglé sur la page de Facebook de boycott Apartheid Israël Paris banlieue, toute la liste des produits alors israéliens et pas que israéliens, justement c'est aussi des entreprises qui participent et tirent profit de la colonisation et qui sont pas forcément israéliennes, mais je sais pas, par exemple je dirais Puma qui a un partenariat avec l'organisation de football israélienne dont la plupart des, donc 6 clubs ou plusieurs clubs sont situés dans les colonies, des colonies illégales. Ça peut être un certain nombre de banques ou d'assurances qui ont des investissements dans des entreprises qui sont directement engagées dans la colonisation, etc. Bref, donc du coup, je vous invite tous et toutes à y jeter un œil, à en parler autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire.